si on prend conscience de nous-mêmes et si on prend conscience de ce qui nous habite, eh bien, on sera d'autant plus guidé vers une plus grande profondeur. Donc, c'est le choix de la profondeur. Ça veut dire aussi, si on met, comme le thème de cette soirée là, nous invite à le faire, le cap sur le Seigneur, c'est revisiter un certain rapport au temps. Parce que, au fond, évidemment, la prière dit un rapport au temps qui est différent. On sent que dans nos sociétés, il y a une forme d'accélération, et peut-être même dans vos vies professionnelles, dans vos vies personnelles, il y a une sorte de course en avant qui est clairement un obstacle à la vie intérieure. On enchaîne les choses. On ne prend pas le temps peut-être de relire, vous voyez, telle ou telle chose. Par exemple, vous avez participé à cette conférence, vous connaissez l'association, mais quel va être votre temps de relecture? C'est-à-dire de, tiens, qu'est-ce qui a été déposé en moi? Qu'est-ce que j'ai reçu? De quoi je m'empare? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui, au contraire, voilà, c'est de temps. Et je pense que ce rapport au temps fait partie de l'humilité. Et l'humilité, évidemment, est la base de la prière. L'humilité, c'est la base de la prière, de dire, ben voilà, je prends un temps pour moi qui n'est pas enfermement sur soi-même, parce qu'il faut bien être attentif, parce que vous entendez pas mal de réflexions comme ça sur une intériorité émotionnelle, le développement personnel, etc., qui est intéressante, c'est cette réflexion-là, mais avec aussi un danger de dire, tiens, d'enfermement sur soi-même, de prendre soi-même uniquement comme seul horizon, vous voyez. Mais en tout cas, c'est une étape qui, je trouve, est intéressante, et que vous soyez attentif à dire, avoir une vie spirituelle demande du temps, tout simplement, demande du temps et demande des rituels. Moi, je vous invite à avoir des rituels, c'est-à-dire que moi, ma religion, c'est celle de l'agenda. J'ai noté que j'étais avec vous ce soir, vous avez noté visiblement aussi, mais ça, c'est, je vais dire, c'est des moments forts dans votre vie spirituelle, que ces temps de comme certains participent à des groupes de prière ou ce temps de conférence, etc. Mais de façon peut-être plus habituelle, qu'est-ce que vous prenez comme rituel de contact avec le Seigneur, de contact avec vous-même et de contact avec le Seigneur? En grande partie, vous voyez, on voit beaucoup, vous en avez entendu parler des burn-out, etc., des gens qui... La burn-out, c'est une maladie du don. Des gens qui sont dans le don, mais jamais se ressourcent. Qui sont le fait de se donner soi-même, surtout quand on a des métiers qui touchent à la relation d'aide. Certains sont dans le milieu médical, par exemple, d'autres dans le milieu social, d'autres, voilà, donc dans l'armée, dans les forces de l'ordre, etc. C'est des métiers vocation. Et donc, ceux qui sont dans des métiers vocation ont un risque plus grand que d'autres d'épuisement. Mais d'épuisement par manque de vie intérieure. D'épuisement parce qu'il n'y a pas eu le temps nécessaire pour descendre, pour s'écouter, pour rentrer, on verra à la fin du topo, rentrer dans une dimension de repos et de... Voilà, donc je pense que la première chose, c'est le temps. Quel temps nous voulons dédier tous les jours, un petit peu, la régularité, c'est ce qui paye, mais aussi des grands moments, ça peut être groupe de prière, conférence, ça peut être retraite, une retraite dans une abbaye une fois par an, etc., peut-être certains vous êtes habitués à ça. Donc, intériorité émotionnelle. Mais ensuite, l'intériorité émotionnelle, c'est pas la seule intériorité, il y a l'intériorité, ce qu'on appelle spirituelle. Et quand on parle de spirituel, ça fait allusion directement à la transcendance. C'est-à-dire que nous sommes traversés par des émotions, mais surtout nous avons cette conviction que nous sommes habités. Nous sommes des hommes et des femmes habités. Et vous vous rappelez ce que dit saint Paul, ne savez-vous pas que nous sommes les temples du Saint-Esprit? Je trouve que c'est la grâce de la vie chrétienne, c'est vraiment de découvrir ça, que c'est d'abord un lieu de rencontre. Peut-être on a trop, par le passé, ou encore maintenant, mis l'accent sur une morale. Penser que être chrétien, c'est d'abord une morale, permis, pas permis, péché, pas péché, etc. Je trouve ça pas tout à fait juste, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre qui fait qu'ensuite je vais changer de comportement. Mais c'est pas d'abord une liste de choses à faire ou à ne pas faire, c'est d'abord une rencontre. Et une rencontre à l'intérieur de soi-même, de découvrir qu'on est habité, qu'on a une présence. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, dans un terme un petit peu savant, l'inhabitation de la Trinité en nous. Ça veut dire quoi là? Nous, par le baptême, nous le savons, ben, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous portons bien sûr dans des vases d'argile. Nous portons dans des vases d'argile cette grâce d'être porteur du Seigneur. Nous le croyons, chaque disciple de Jésus est porteur du Seigneur, et parce qu'il découvre aussi en lui-même plus grand que lui-même. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui fait qu'on a un horizon qui va au-delà de nous-mêmes. C'est ça, être croyant, c'est affirmer une éternité et affirmer que nos actes retentissent dans l'éternité. Nous sommes appelés, c'est notre foi, nous sommes appelés à la vie éternelle. Nous sommes appelés à la vie éternelle. Et donc, la vie éternelle, loin de nous désengager de notre propre activité, de nos activités, la vie éternelle donne comme une densité à l'existence, vous voyez, donne comme quelque chose qui va nous dire, tiens, voilà, ce que je vis là, il y a quelque chose de ce que je vis là que je retrouverai dans l'éternité. Et dans un au-delà, dans un ailleurs, dans un autre horizon. Et le fait d'avoir cette conviction que nous avons un Dieu qui est personnel et vers lequel nous allons, ça donne une vraie direction dans une vie. Alors que on voit des tas de personnes qui sont un peu perdues aussi parce qu'il n'y a pas cette dimension transcendante, il n'y a pas ce qu'on appelle l'altérité, un autre que moi. Ils sont peut-être dans un enfermement sur eux-mêmes ou parfois pas beaucoup de guides vers lesquels se tourner. Et je trouve que nous-mêmes, par cette grâce d'être habité, fait qu'on découvre qu'on porte en nous-mêmes plus que nous-mêmes. C'est ça, le disciple de Jésus que porte en lui-même plus que lui-même. Ce qui veut dire que il porte, notre religion, c'est une religion du vertige. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout ce que nous vivons a à voir avec l'éternité. C'est une religion du vertige. Il y a quelque chose de vertigineux dans la vie chrétienne, de découvrir que si je vis de cette présence, si je fais cette rencontre, si je demande de vivre de cette rencontre, parce que la vie chrétienne est d'abord une rencontre, eh bien, il y a des choses dans ma vie qui vont changer. Il y a des manières d'envisager événements et personnes qui vont être différents. Par exemple, eh bien, j'aime bien cette phrase du philosophe Pascal qui disait, ben voilà, les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Voilà. Les circonstances de nos vies sont plongées dans des circonstances. Aujourd'hui, vos vies sont plongées dans telles circonstances personnelles, professionnelles. Pour nous, nous avons un regard sur ces circonstances-là, de santé, de famille. Nous avons un regard sur ces circonstances-là, bien, un regard de foi. Ce sont nos maîtres spirituels. Donc, le fait de découvrir qu'on est habité, que le Seigneur passe aussi par notre quotidien et nous appelle à aller plus profond, eh bien, je trouve que ça donne un goût à la vie, ça donne une manière de vivre qui est beaucoup plus dense, vous voyez, qui est beaucoup plus forte, parce que précisément, le Seigneur lui-même nous demande, en tout cas à travers son Saint-Esprit, nous permet d'avoir un contact avec lui. Et parce que nous avons un contact avec lui, ben voilà, nous portons en nous-mêmes plus que nous-mêmes. C'est ce que disait le grand saint Augustin, hein, un Dieu plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Hein, c'est ce que lui-même disait. Donc, nous sommes les sanctuaires du Saint-Esprit. Prenons conscience que nous ne sommes jamais seuls. Oui, le croyant n'est jamais seul. Et ça, c'est énorme. Nous ne sommes pas seuls. Je veux dire, le fait d'être habité fait que quelqu'un marche à nos côtés. Et ça, c'est quand même considérable. Alors que des personnes qui, encore une fois, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on est meilleur que les autres. On va pas non plus. On a beaucoup de choses à travailler aussi comme disciples de Jésus. Mais en tout cas, nous découvrons que la présence du Seigneur donne un axe, donne un guide, donne une espérance. Vous voyez, donne une espérance. Et donc, mettre la vie spirituelle au cœur de votre vie quotidienne, en tout cas ces temps de vie spirituelle, c'est aussi rentrer dans une espérance. Mon ministère m'appelle beaucoup à préparer des couples au mariage, Et je trouve l'importance d'une vie spirituelle dans une relation de couple, c'est que ce n'est pas le face-à-face de deux psychologies plutôt blessées dans le sens voilà, qui. Voilà, c'est le fait d'avoir un ailleurs vers lequel le couple se tourne, une espérance. Et de fait, quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas fait cette rencontre avec le Seigneur, ben, vers quoi se tourner pour avoir une espérance, vous voyez, d'un autre horizon, d'un ailleurs, quelque chose qui nous emmène plus loin, quoi. Donc, je trouve que c'est intéressant, justement, de laisser cette place et de laisser comme un rituel dans nos vies de contact personnel avec le Seigneur, de cœur à cœur avec lui. Où est-ce que vous en êtes là-dessus ? Dans ce cœur à cœur avec lui, qui est dans la prière silencieuse, qu'on appelle aussi l'oraison. Vous avez peut-être entendu parler de cette prière silencieuse qui porte le nom d'oraison, où à travers la lecture de la parole de Dieu, on laisse retentir en nous-mêmes cette parole et comment cette parole de Dieu nous indique un chemin. Et à travers la méditation régulière de la parole de Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui progressivement se trace dans nos vies et nous permet d'avancer. Nous avons mais en même temps, et c'est un autre point, donc intériorité émotionnelle, intériorité spirituelle, mais il y a la lutte, il y a des obstacles à la vie intérieure. J'aime bien cette phrase de Bernanos de 1946, ça ne nous rajeunit pas, qui disait la chose suivante, hein, on ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute forme de vie intérieure. Voilà, c'est une conspiration contre toute forme de vie intérieure. On parle d'un ouvrage de 1946. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux ? Il y a des forces centrifuges. Nous sommes appelés à une intériorité, nous sommes des êtres habités, mais en même temps, il y a des forces centrifuges qui nous emmènent loin de ça. Loin de ça, d'une certaine manière, qui nous font oublier ce que nous portons, que nous sommes des tabernacles, par exemple. Nos humanités, c'est très beau, ça, cette vie chrétienne, nos humanités portent la présence divine par le baptême. Eh bien, nous avons donc un combat à mener. Il y a un combat à mener parce que on voit bien que dans nos vies, c'est pas intuitif. La vie spirituelle n'est pas intuitive, la vie de prière n'est pas intuitive. Tout est fait pour nous décourager, pour nous emmener loin de nous-mêmes. On voit bien l'attraction de forces centrifuges comme ça. Et donc ça veut dire qu'il y a un combat à mener, et ce combat, nous le menons aussi à travers la vie de foi, avec les armes de la vie spirituelle, que sont les sacrements, qu'est la parole de Dieu, parce qu'on voit bien qu'en nous, il y a une forme d'activisme, il y a un rapport au temps, comme je vous le disais, qui n'est pas en place. Il y a un rapport au temps qui n'est pas en place. Il y a une sorte d'activisme, de perfectionnisme. Activisme et perfectionnisme, un peu ce sont ces terres stériles, si vous voulez. Comme vous vous rappelez la parabole du semeur, le semeur est sorti pour semer, et il y a du grain qui est tombé dans la mauvaise terre, il y a du grain qui est tombé dans les ronces et dans la bonne terre. Bien, activisme et perfectionnisme, c'est-à-dire activisme, c'est mettre dans 24 heures plus que 24 heures. Perfectionnisme, c'est pas accueillir la limite, c'est rentrer dans une toute puissance. Ça nous éloigne du Seigneur. Donc le combat spirituel, c'est le combat contre la toute puissance. Faire l'économie de la vie spirituelle, c'est se dire soi-même Dieu. Même si on ne va pas le dire comme ça, parce que évidemment tout le monde nous prendrait pour un fou. Mais dans les faits, l'absence de vie intérieure, l'absence de contemplation. Et je vous interpelle, où est-ce que vous en êtes dans la dimension contemplative de vos vies ? On est tous appelés à contempler, pas que dans les moines dans les monastères qui sont des contemplatifs. De fait, de notre vie spirituelle, de la présence du Saint-Esprit en nous, on est appelé à contempler l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu dans la nature, puisque nous, on est plutôt sensibles à ces questions-là, tout le travail autour du vin, de la vigne, etc. Mais pas que, l'œuvre de Dieu en nous, l'œuvre de Dieu autour de vous. Donc, je trouve que c'est intéressant de dire que nous sommes, il y a un combat à mener, il y a des idoles, des idoles. C'est quoi une idole? Une idole dans la Bible, vous voyez ça, c'est en fait une idole, c'est ce qui s'oppose à Dieu et qui fait que, entre autres, il n'y a pas de. À quoi on reconnaît l'idole? Il n'y a pas de repos. Dans l'idole, il y a la réalité du hamster dans la roue. Vous voyez, c'est toujours plus, c'est cette course en avant, sans arrêt, peur de louper quelque chose, peur de la page d'agenda vide. Vous voyez, cette dimension, ça, c'est des idoles. C'est des idoles parce que, alors que, et ces idoles-là sont clairement un obstacle, idole ou toute puissance, c'est pratiquement son synonyme, ces idoles-là sont clairement un obstacle à notre vie spirituelle. Oui, c'est clairement un obstacle à notre vie spirituelle, parce que y a trois grandes formes d'idoles hein, que vous connaissez, si vous avez lu les tentations du Christ qu'on lit au début du carême, hein, donc tout ce qui est autour de la chair, donc les plaisirs, etc., de mettre le plaisir comme seul critère de discernement, autour des richesses, l'accumulation des richesses, hein, autour de donc, l'idole de la toute-puissance des richesses et la toute-puissance de l'esprit, hein, ne pas donner du temps pour Dieu, ne pas se reconnaître créature, dépendant du Seigneur, mais être dans une sorte de toute-puissance, vous rappelez, hein, cette dernière toute-puissance de l'esprit, hein, dans le récit des tentations, hein, le démon qui dit à cette... il place Jésus spirituellement au sommet du temple et jette-toi d'ici en bas, les anges te garderont, te porteront sur leurs mains. Il tente le Seigneur par la parole de Dieu et le Seigneur répond avec la parole de Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc cette toute puissance de l'esprit, c'est trois formes d'orgueil aussi. Hein. Et la difficulté avec l'orgueil de l'esprit, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Comment dire ça? C'est une sorte de point aveugle en nous. Il y a quelque chose qui fait qu'on, comme on ne se voit pas agir, il y a une sorte d'angle mort dans nos vies et on ne voit pas qu'au fond, il y a une certaine toute-puissance, orgueil de l'esprit qui dans notre vie, progressivement, eh bien, s'installe, entre autres par l'absence de vie spirituelle, l'absence de contemplation, l'absence de repos. Quand je dis de repos, c'est pas l'absence de travail, le repos c'est l'accomplissement du travail. Hein, nous croyons en un Dieu qui a travaillé et qui s'est reposé. L'absence de vie contemplative. Oui, c'est des formes de toute puissance qui, je crois que c'est des idolâtries qui sont très, très présentes dans notre monde occidental, mais pas que, mais beaucoup dans les civilisations technologiques avancées. Je vois, moi j'ai vécu pendant des années en Argentine, il y a un rapport au temps complètement différent. Complètement différent. Le temps, on prend le temps avec les gens. On prend le temps. Mais je n'ai jamais eu le rapport au temps d'un Argentin, parce que j'étais élevé voilà, dans des grandes études, etc., avec l'efficacité. Au fond, la vie contemplative, c'est prendre le temps pour la gratuité. La gratuité de la rencontre. Et ça, j'ai vraiment appris ça dans mon séjour en Amérique latine, où des personnes, justement, ont une autre manière d'envisager le temps. Hein, une autre manière d'envisager le temps. Alors, qui, pour nous, nous coûte, parce que comme on est dans l'efficacité, comme on est, par exemple, dans notre communauté, on a des frères argentins, ces frères-là ont été estomaqués quand ils ont appris que les Français... pour aller visiter un ami, prennent rendez-vous. Ils disent, non, on prend rendez-vous pour aller chez le médecin, pour une démarche officielle, etc. Non, je vois un ami, je frappe à la porte, tu es là, tu n'es pas là. Maintenant, si demain, je ne sais pas, je ne sais pas vos adresses, mais je frappe à votre porte sans vous prévenir, il y aurait un petit malaise quand même. Donc, il y aurait un petit malaise parce que... Ah oui, mon père, ça va, bien, parce que je n'ai pas prévenu. Nous, on fonctionne comme ça, mais d'autres fonctionnent autrement. Ce qui fait que je trouve que le fait d'être en contact, et peut-être vous avez vécu aussi à l'étranger l'un ou l'autre, avec un autre rapport au temps, qui fait qu'il y a une gratuité, on n'est pas dans une efficacité, on est une forme de lâcher prise. Et je crois que c'est intéressant de dire que la vie spirituelle, elle nous demande, elle est l'invitation à se lâcher prise, à cette gratuité, à sortir, en tout cas pour des moments, on ne peut pas toujours tout faire ça, mais à des moments que l'on a déterminés, qu'on se dit, tiens, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je peux contempler, qu'est-ce que je peux découvrir d'une gratitude, où est-ce que j'en suis de la gratitude, hein, vous savez, gratitude, c'est vraiment, c'est très beau, c'est de dire, c'est trois petits bonheurs quotidien, ces trois bonheurs que je au quotidien, aujourd'hui, tiens, par exemple, aujourd'hui, on va faire juste une pause de 2 minutes, intérieurement, chacun va nommer 3 bonheurs d'aujourd'hui. Oui, la gratitude, c'est ce qui nous permet de grandir dans la dimension de foi. La gratitude, c'est une expression d'une vie intérieure, d'une vie de prière. C'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Vous vous rappelez ce qu'on appelle l'action de grâce, l'Eucharistie, c'est l'action, je rends grâce, je vois la vie comme un don. Je ne vois pas la vie comme un dû. C'est complètement différent. Parce que je sais que je suis habité, je sais que le Seigneur marche à mes côtés dans la foi, je sais que la grâce de Dieu est là. Et parce que je sais que la grâce de Dieu est là, je le découvre lui-même à l'œuvre en moi et à mes côtés. Donc vraiment, je vous invite à ce début d'année, voilà, où vous allez être très sollicité, à être vraiment attentif à ce qui peut être de l'ordre du combat spirituel, de ce qui peut vous détourner de la vie de prière, de ce qui peut vous entraîner dans une forme de course en avant, dans un rapport au temps qui est déséquilibré. Et donc un rapport au temps, ça veut dire un rapport à l'autre, forcément, parce que notre rapport les uns aux autres, nos relations humaines sont dans le temps. Et donc si j'ai un rapport au temps déséquilibré, le rapport à l'autre sera déséquilibré. Bon, de prendre juste du temps avec quelqu'un, hein, avec un ami, de visiter un ami, peut-être un parent, vos grands-parents, nous croyons que le temps est le temps de la rencontre, le temps de la rencontre avec le Seigneur, mais le temps de la rencontre aussi avec nos proches. Et on peut passer très vite à côté les uns des autres, dans une même fratrie, dans une même famille, parce qu'on ne prend pas le temps de la gratuité. Vous voyez, on ne prend pas le temps de cette rencontre juste simple, parce qu'on n'a pas non plus en amont pris le temps de la rencontre avec le Seigneur. Et donc on voit tout dans une sorte d'efficacité. Et je pense que... Donc voilà, c'est important que nous puissions, en tout cas quand on commence cette année, de débusquer en nous cette toute puissance. Où est-ce que, qu'est-ce qui pour nous, ces trois formes d'orgueil que je vous ai nommées, qui sont dans les trois tentations du Christ, quelles sont celles qui, quelle est celle qui me concerne le plus? Est-ce que c'est la tentation, par exemple, de toujours vouloir avoir raison, donc l'orgueil de l'esprit? Est-ce que c'est la tentation de paraître avec du pouvoir, etc. Donc je pense que c'est intéressant que nous sommes touchés les uns et les autres, peu ou prou, par une des trois toute-puissances que le Christ a vaincues. Et le Christ a vaincu la toute-puissance, l'orgueil, les trois formes d'orgueil, qui sont les trois formes de toute-puissance, mais il l'a vécu par l'humilité de sa passion. Je trouve ça très beau de dire que Jésus lui-même a fait ce chemin qui éloigne l'homme de Dieu pour pouvoir le rapprocher du Seigneur. Et donc, c'est intéressant de dire comment, au fond, nous-mêmes, nous sommes invités à rentrer dans cette démarche du Seigneur d'humilité, de simplicité. qui n'est pas intuitive, encore une fois, qui nous demande un vrai changement de vie, une vraie... Oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une dimension pascale. Ce qu'on appelle une dimension pascale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous savez, le mystère pascal, le mystère de la Pâque du Seigneur, eh bien, il y a une dimension pascale, c'est-à-dire que dans nos vies, il y a une mort pour aller... Il y a quelque chose qui doit mourir pour aller vers la vie. Et le fait que... Le fait de donner de l'importance à la vie de prière, le fait de donner de l'importance à la contemplation, c'est ça qui nous rend vivants. Ça fait de nous des vivants. Vous connaissez cette phrase du Deutéronome, hein, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, la mort ou la vie, choisis la vie. Et choisir la vie, choisir d'être des vivants, choisir d'être lumineux. Pour ceux qui nous entourent aussi, ça vient de l'intériorité. Ça vient d'abord de ça. Je pense que en tout cas, c'est important de s'en rappeler, de dire voilà. Et puis, j'aimerais un peu avancer avec vous dans la réflexion sur la question du repos. Je vous en ai dit déjà quelques mots, mais ce sera un des indices d'une vie spirituelle équilibrée. Hein, c'est le repos qui n'est pas absence de travail, ni loisir, perte dans les loisirs. Le repos, c'est l'affirmation d'un autre. Le repos, c'est l'affirmation d'un autre, c'est-à-dire, c'est imiter Dieu qui a travaillé et qui s'est reposé. Nous croyons en un Dieu qui a travaillé et s'est reposé, on le voit dans la Genèse, c'est unique dans notre vision de la construction du monde. Et c'est vrai que parfois dans le repos même, dans le fait, qu'est-ce qui, et je vous pose la question, qu'est-ce qui refait vos forces? On voit des personnes qui arrivent épuisées de leurs vacances. Qu'est-ce qui refait vos forces? Pensez-moi, moi j'ai mis du temps à savoir qu'est-ce qui me ressourçait intérieurement. Pourtant je suis dans la vie religieuse, je passe des tas d'heures en prière avec la liturgie, etc., etc. Mais je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que... J'aurais à choisir un temps libre, de dédier un temps libre. Qu'est-ce que je fais? Je regarde Netflix pendant 24 heures. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Qu'est-ce qui va me ressourcer? Et chacun à vous de voir. Ça peut être une rencontre, ça peut être un temps seul, ça peut être un temps de lecture, ça peut être... Je trouve la question du repos dans nos sociétés qui sont hyperactives, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif parce que dans le repos, il y a un peu l'anticipation de la mort. Vous voyez, il y a le repos, c'est ce qui fait que... parce qu'évidemment, le repos, c'est le monde qui marche sans nous. C'est le monde qui marche sans nous. C'est intéressant, ça veut dire qui. Et qu'est-ce que c'est que la mort? Ce sera le monde qui continuera de marcher sans nous. Et donc il y a parfois une peur de ce temps de repos, parce que derrière ça, il y a une peur de la mort. Une peur de disparaître. Et j'aime bien cet hymne des complis du vendredi, vous savez, dans la liturgie des heures. La liturgie des heures, c'est les religieux et religieuses, etc. Donc vous avez l'office des lots le matin, les vêpres l'après-midi, et pour conclure le jour, il y a ce qu'on appelle l'office du complis, des complis. Et le vendredi soir, il y a une hymne que je trouve vraiment très belle, que j'aimerais lire avec vous, parce que je trouve qu'elle parle justement du repos. L'heure s'avance, fais-nous grâce, toi dont le jour n'a pas de fin. Reste avec nous quand tout s'efface, Dieu des lumières sans déclin. Tu sais toi-même où sont nos peines, porte au royaume nos travaux. Sans toi, notre œuvre sera vaine, viens préparer les temps nouveaux. Comme un veilleur attend l'aurore, nous appelons le jour promis. Mais si la nuit demeure encore, tiens-nous déjà pour tes amis. Dieu qui sans cesse nous enfante, à toi ces derniers mots du jour. L'Esprit du Christ en nous les chante et les confie à ton amour. Je trouve c'est très beau, c'est vraiment une très belle prière de fin de journée. Hein. L'heure s'avance, fais-nous grâce, hein, toi dont le jour n'a pas de fin. Au fond, être Mettre la prière dans nos vies, c'est se mettre face à ce jour qui n'a pas de fin. C'est se mettre face à cette plénitude à laquelle nous sommes appelés. C'est se mettre face à cette éternité qui nous attend. Et cette éternité qui est déjà là, vous savez, dans le christianisme, il y a une sorte de tension à ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Déjà l'éternité est là, pas dans la plénitude, nous ne sommes pas dans le face-à-face, mais déjà nous pensons que se joue notre éternité, ici et maintenant. Hein, il y a donc, je trouve ça intéressant de dire, tiens, le Seigneur qui nous invite à reprendre contact avec ce monde caché en nous, à reprendre contact avec cette attitude intérieure, et peut-être comme des côtés plus pratiques, pensez peut-être à faire ce que j'appelle des pauses regards. Des pauses regards, c'est dans votre journée, peut-être vous pouvez vous mettre une alarme, maintenant on a des alarmes avec mon téléphone, etc. Une alarme de pause regard, ça veut dire quoi? J'attends, je cesse ce que je fais, ce qui est très difficile, ce qui est un exercice très difficile. Je cesse ce que je fais et je me mets en contact avec le Seigneur qui est présent en moi. Je lis peut-être ce passage-là que je viens de vous lire, ou simplement une parole, viens Esprit Saint. Simplement ça. Je trouve que c'est ça qui va ancrer votre vie de prière. Ensuite, évidemment, c'est important d'avoir une hygiène de vie. Une hygiène de vie, que ce soit concernant le sommeil, hein, la nourriture, la boisson. Voilà, d'avoir une hygiène de vie. Et de découvrir aussi quels sont les lieux de silence dans nos vies. Ou est-ce que tout est habité par le bruit? Est-ce que toujours on a nos écouteurs ou ceci, cela, dans la radio, dans la voiture, etc. Donc cette part de silence dans nos vies, qui vraiment nous permet de découvrir que tout est grâce, que tout est offert, que tout est gratuit. Hein, nous avons reçu grâce sur grâce, et c'est saint Paul qui nous dit ça, donc... Évidemment, je vous conseille, pour enraciner votre vie spirituelle, une retraite par an, un week-end par an, dédié au Seigneur, dédié à la vie spirituelle, à la contemplation, et à vous nourrir aussi spirituellement, à vous former. Hein, ça, c'est quelque chose qui me paraît très important. Et puis de découvrir aussi les fruits de cette vie spirituelle à travers le regard que je porte sur les autres. Nous verrons peut-être combien l'autre aussi est habité. On n'a pas simplement un regard, j'allais dire, horizontal. On a un regard aussi vertical. C'est-à-dire que le contact avec le ou les collègues de travail, les personnes que je n'ai pas choisies, quelle est ma manière de les regarder? Parce que j'aurais pris le temps de la contemplation, j'aurais pris aussi le temps d'avoir... un autre regard, de pas faire de l'autre une liste de défauts, par exemple. Bien sûr qu'il a des défauts, bien sûr que nous avons des creux et des bosses, mais on voit une personne qui est habitée par la prière, par sa manière de regarder, sa manière de voir aussi la beauté de chacun, de voir la beauté de l'œuvre de Dieu en chacun. Et n'hésitez pas, quand vous voyez quelqu'un qui fait du bien, d'où qu'il vienne, nous disons que le bien qui est fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, dans notre tradition religieuse. D'où qu'il vienne, de personnes croyantes, pas croyantes, d'autres confessions, etc. N'hésitez pas aussi à dire ça. Parce que de dire, tiens, je t'ai vu faire ça, c'est beau ce que tu as fait. On est tellement, parfois, embarrassé par une forme de négativité, depuis petit, hein, avec les notes, etc., etc. Bon, d'entendre quelqu'un de dire « c'est beau ce que tu as fait », je trouve que c'est quelque chose qui grandit la personne et qui nous grandit aussi, et qui est un des fruits de notre vie spirituelle. Vous voyez, donc... Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Et surtout vous, qu'est-ce que vous allez prendre comme disposition pour cette année, pour vivre de cette intériorité, quoi. Oui.
La référence de la prière.
À la référence de la prière. La référence de la prière, c'est l'hymne des complis. Vous trouvez ça dans une application qui s'appelle AELF. Vous cliquez là-dessus, et c'est l'hymne des complis du vendredi soir. Hein, l'hymne des complis, leur savance fait nous grâce. Ça s'appelle comme ça. N'hésitez pas à partager aussi des choses qui vous ont aidé dans votre vie de foi, qui vous ont aidé dans votre vie intérieure. Est-ce qu'il y a des best practices, comme on dit en français, c'est-à-dire des bonnes pratiques que vous avez mises en place et qui vous ont porté? Oui.
Moi, ça m'a aidé un temps, c'est l'application Prie en chemin.
Prie en chemin. D'accord, cette application Prie en chemin qui donne un psaume. Il y a l'Évangile au quotidien aussi, il y a d'autres applications comme ça. Donc, toi, ça t'a aidé. Tu fais ça plutôt le. Oui. Et c'est plutôt le matin que tu fais ça?
Alors, quand je le faisais, c'était dans les transports.
D'accord, le matin. C'est vrai que les spirituels, juste petit détail pratique, les spirituels recommandent toujours de prier le matin. Parce que le soir, ben, on peut avoir une tendance à l'endormissement. Surtout quand on est dans son lit en train de prier, je vous salue Marie, etc. Du coup, vous pouvez être un peu. Voilà. Donc, ben, les spirituels recommandent le matin parce que l'esprit est frais, dispo, pour aussi prendre ce temps avec le Seigneur. Oui.
J'ai une question sur le chapelet.
Oui. Le chapelet, c'est une prière, c'est répétitive. C'est une prière souvent qu'on fait à plusieurs. Vous voyez, une dimension peut-être aussi communautaire dans le chapelet. Mais c'est une prière où on invoque la Vierge Marie, on contemple les mystères du Christ. Là aussi, qu'est-ce qui vous va bien au niveau de vie, de style de prière? Est-ce que c'est, on a parlé d'une application avec la parole de Dieu, une méditation, est-ce que c'est un chant, est-ce que c'est le chapelet? Mais certainement le chapelet est une prière simple, la prière des suffit juste des 10 doigts pour pouvoir prier. Donc repérez qu'est-ce qui vous correspond comme style de vie de prière. Puis il y avait une autre question pour lui.
Ça rejoint un peu la question précédente, mais c'est ma question est comment. Est-ce que vous priez différemment pendant un office ou pendant une adoration ou pendant une messe le matin, enfin, est-ce que vous identifiez différents types de prières? Ça me rend un peu la prière de chaque nuit.
Alors, c'est vrai qu'il y a différents styles de prières. D'abord, la messe, c'est l'Eucharistie, avec la présence de Jésus, c'est notre foi, sa présence réelle de Jésus. Donc, c'est le Saint-Sacrement, donc il y a une densité, en tout cas personnellement, je trouve que dans la messe, il y a une densité, parce qu'on est en contact et on communie au corps du Christ, au corps et au sang du Christ. Donc du coup, maintenant ensuite, il y a moi j'aime bien la prière des offices. L'office, du coup, nous on a prière le matin, les laudes, comme je vous l'ai dit, le milieu du jour, le soir, les vêpres. Et c'est sur 4 semaines, et le fait que progressivement, moi je commence à connaître les psaumes par cœur. Du coup, il y a des choses qui viennent, et je trouve que ça me nourrit, l'office me nourrit. Tu vois, ça me nourrit. Et c'est aussi, c'est important, la prière n'est pas que quelque chose de personnel et portatif. Il y a une dimension du corps que nous formons. Il y a une dimension d'une unité que nous avons entre nous. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'Eucharistie et la prière des heures, hein, avec les laudes, les complis, etc. C'est la prière de l'Église. C'est l'Église qui s'adresse au Père par le Christ dans l'Esprit. Donc, je trouve ça très beau de dire qu'on prend conscience, dans ces formes de prière, on dit, je porte d'autres dans ma prière. Je ne peux pas dire je sans dire tu. Je ne peux pas dire tu sans dire nous. Et C'est des moments comme ça où je trouve que tous, par exemple, ben, quand j'ai prié mes laudes ce matin, dans tout, surtout tous ceux qui ont prié leur laude, ont prié les mêmes psaumes, ont prié des. Il y a une communion de prière, quand on a les lectures, c'est les mêmes partout, en tout cas pour les catholiques, partout, que ce soit en Amérique du Sud, etc., en Asie, etc. Il y a une dimension du corps du Christ, de communion. Je trouve qu'il est très fort, moi qui m'aide beaucoup, tu vois, je vis ça différemment, oui, certainement. Et ensuite, il y a des prières qu'on appelle plus de dévotion. On a parlé du chapelet, mais il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Mais c'est de l'ordre de la dévotion, c'est-à-dire que ce n'est pas la prière officielle de l'Église. C'est, personnellement, ça, on voit qu'il y a un regain, et c'est vraiment heureux, depuis plusieurs années, pour les temps d'adoration. Dans l'adoration, c'est le Saint-Sacrement, l'hostie qui est exposée sur l'autel, et on prend. Voilà, et là, c'est plus une dimension personnelle, par exemple. Mais en tout cas, il ne faudrait pas tomber que dans une dimension personnelle. En tout cas, c'est important de prendre conscience qu'on a aussi cette dimension communautaire. On porte un peuple, on porte des intentions, on porte des personnes qui nous sont confiées, et je trouve que. Dans cette prière de l'Église, c'est ça qui est, en tout cas, qui me soutient beaucoup. Oui. Oui. Alors, l'oraison, c'est l'oraison silencieuse. Il y a plusieurs méthodes. Je ne vais pas détailler parce qu'on, mais il y a plusieurs méthodes d'oraison. Vous avez deux, j'en connais deux en tout cas. C'est Saint François de Sales. Et puis aussi, Ignace de Loyola qui a établi l'oraison. Donc c'est une prière silencieuse, en général un quart d'heure, qui commence par la parole de Dieu, que on médite, mais qu'on médite pas simplement intellectuellement, qu'on laisse cette parole de Dieu descendre en nous. Qu'est-ce que cette parole de Dieu, en quoi elle vient éclairer quelque chose de ma vie aujourd'hui? Et cette parole de Dieu, en quoi elle va me pousser à une certaine action? Oui, donc je crois que l'oraison, c'est vraiment c'est ce contact personnel avec le Seigneur à travers cette parole. On la lit, on la laisse descendre, on voit comment cette parole qui agit réagit en nous. Et ensuite, elle nous invite à poser des actes. Et voilà, c'est l'oraison. Il y a toutes des formations à l'oraison. Je pense qu'il y a des c'est vraiment le trésor des carmélites, par exemple. On a fêté hier la petite Thérèse. Voilà, la tradition carmélitaine. Il y a vraiment l'oraison fait partie du trésor. Et c'est vrai que c'est pas assez enseigné. Oui, c'est cette question de l'oraison, de la prière silencieuse, quoi. Donc, oui. Est-ce qu'il faut prier le plus longtemps possible, c'est ça? Alors, je crois que c'est la régularité qui paye. Fixez-vous un temps et tenez-vous-y. Vous ne rattrapez pas parce que vous avez loupé votre prière, etc. Vous ramassez le passage, j'ai passé 3 heures rien qu'à prier. Non, si c'est un quart d'heure par jour. Je crois que c'est cette pluie qui tombe, qui est douce, qui rentre dans la terre et qui vous transforme. Donc, pour moi, c'est au niveau du temps, c'est la régularité. Court au début, parce qu'il peut y avoir des consolations dans la prière, des choses que vous ressentez, etc. Du coup, on a envie de prolonger. Et les spirituels disent clairement non. Vous tenez un temps, parce que quand vous aurez, vous vous ennuierez. Sainte Thérèse de Lisieux disait qu'elle comptait le carrelage dans l'église où elle était, etc., parce qu'elle s'ennuyait. Mais de dire, je tiens mon temps de prière. Et ça, je crois que c'est quelque chose de. En tout cas, d'être attentif là-dessus, de s'y tenir, de fixer un cap, un temps court au début, on conseille un quart d'heure, d'oraison par exemple, parce qu'on n'a pas toujours le Saint-Sacrement, on n'a pas toujours la possibilité de participer à la messe, ni si vous avez, non pas seulement votre travail, mais Vous avez fait votre activité professionnelle à faire, et c'est comme ça aussi que vous louez Dieu. Mais en tout cas, de ce temps de prière silencieuse, où vous laissez, vous écoutez la parole de Dieu, et c'est régulier, et vous laissez descendre cette parole, moi je vous invite, c'est la régularité qui paye. C'est la régularité qui paye. Quoi. C'est qui paye dans le sens, voilà, qui est transformatrice. Quoi. Merci à vous.